Lyon demain, créateur d'envie.
Les journées européennes du patrimoine sont maintenues le week-end des 19 et 20 septembre. Au-delà des grands classiques que sont la mairie, l'auditorium ou l'opéra, 200 offres de visite sont proposées en lien direct avec le thème patrimoine et éducation. Laurent Chopard, en charge de la coordination de l'événement au sein de la métropole de Lyon.
Le thème, il a été choisi avant le Covid. Il se trouve que en suivant un peu les pistes données par le Conseil de l'Europe, on avait, nous, à la métropole, choisi de développer ce thème-là. Le ministère de la Culture a choisi le même thème, mais il l'a annoncé en mai. C'est pas lié au Covid. Finalement, ça nous a posé quelques difficultés. Je vous parlais des annulations, par exemple, du Collège de la Tourette, etc. C'est vrai qu'un certain nombre d'établissements scolaires éprouvaient des difficultés assez fortes à pouvoir maintenir une ouverture. Pour autant, effectivement, je pense que on est dans un contexte où on voit bien que l'éducation, elle continue tout au long de la vie, qu'on doit continuer à s'éduquer à des gestes, à une attention aux autres, puisque finalement, c'est de ça dont il s'agit au départ. Même si on est parfois plus loin, même si c'est parfois un peu plus compliqué d'aller voir directement, de communiquer, de parler, etc.
Alors, ce qu'on aime bien, c'est de visiter, évidemment. Donc, je suppose que quand on parle d'éducation, d'enseignement, on parle d'école, de lycée, de collège. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ?
On peut voir des écoles, des lycées, des collèges, effectivement. Alors, je pense l'ensemble scolaire, par exemple, René Bovry, qui est à Vaux-en-Velin, qui ouvrira ses portes. Je pense au collège-lycée des Chassagnes à Oullins, au collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin à Oullins, mais également le lycée Saint-Just, où les élèves d'histoire des arts vont présenter le bâtiment, son histoire, ses jardins aux visiteurs, ou encore même au lycée du Parc, qui ouvrira encore cette année ses portes.
Avec une place un peu particulière pour le clergé, hein, qui s'est toujours investi dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce domaine-là à Lyon ?
À Caluire, on peut voir une exposition qui retrace toute l'histoire des frères des écoles chrétiennes qui étaient installés dans ce qui est aujourd'hui la mairie de Caluire, hein, avec la chapelle en son centre, qui était le noviciat des frères des écoles chrétiennes, très engagés effectivement dans la question de l'éducation et de l'enseignement.
L'enseignement, c'est bien sûr tout au long de la vie. Alors on voit qu'il y a des lieux également, des musées, des observatoires, des choses comme ça qui vont être visibles.
Les musées ouvrent leurs portes, parfois rouvrent leurs portes pour continuer cette mission d'éducation et de plaisir du grand public qui est la leur. Des bâtiments qui sont plutôt centrés d'habitude sur de la formation universitaire ouvrent là encore leurs portes. Vous parliez de l'observatoire, mais c'est le cas également, je pense, aux herbiers, par exemple, de l'université de Lyon, qui vont ouvrir leurs portes au public, ou les collections géologiques qui seront aussi visibles à cette occasion.
En dehors de cette thématique de l'éducation, les Lyonnais aiment visiter l'hôtel de ville, la préfecture, donc tout ça, ça existe encore, c'est possible encore avec le Covid ?
Alors, c'est effectivement possible. Je leur souhaite qu'ils aient un peu moins de monde que d'habitude, non pas pour des questions de rayonnement, mais plutôt pour des questions de confort sanitaire de chacun et d'éviter des files d'attente qui soient trop longues, puisqu'effectivement, ils ont mis en place des jauges pour restreindre le nombre de personnes en même temps, au même endroit, au même moment. Mais ils resteront ouverts, l'hôtel de ville restera ouvert. Un certain nombre d'animations ne pourront pas se faire, les échanges directs, par exemple avec le carillonneur, etc. Mais le reste des animations, les expositions, tout sera en place comme prévu.
Des nouveautés, des lieux insolites, faites-nous rêver un petit peu.
Alors, moi, je vous encourage à aller essayer de réserver une visite de la Sablière. La Sablière, cette propriété qui se trouve à Caluire, qui a des jardins assez remarquables et qui est située idéalement là sur le plateau avec une vue assez magnifique. Je pense aussi au Dôme des Quatre Rangs, à l'Hôtel Dieu, qui donc l'ancienne cité de la gastronomie, qui ouvre ses portes gratuitement aux visiteurs à l'occasion de ces journées. C'est l'occasion de voir ou de revoir ou de découvrir, parce que finalement a été assez peu visible ce patrimoine des grands Lyonnais.
Il y a également des sites qui vont retrouver leur public, hein, c'est le cas notamment des théâtres où il y aura des rencontres.
Oui, je pense en particulier au Théâtre des Célestins qui, depuis le confinement, c'est la première réouverture au public du théâtre, qui a mis en place des choses très, très précises avec des groupes d'une trentaine de personnes par quart d'heure pour garder avec du personnel dans toutes les salles pour éviter que des attroupements se fassent, etc. Qui a choisi de ne pas faire trop de discours historiques pour éviter justement que les gens ne se regroupent trop, juste donner quelques indications ici et là. Donc des établissements qui ont choisi, qui ont pris à bras le corps cette réouverture et qui s'en font à la fois une inquiétude mais une joie à l'avance de renouer avec le public.
On a parlé tout à l'heure des lieux, hein, en ce qui concerne l'enseignement, mais aussi des figures. Quelles sont les figures tutélaires en quelque sorte de l'enseignement à Lyon ?
Alors il y a quelques figures que l'on peut évoquer. On peut évoquer des figures qui ont laissé leur nom dans des rues, dans des bâtiments. Je pense à André Alix qui était un alpiniste géographe et qui a été recteur de l'Université de Lyon après la Deuxième Guerre mondiale.
D'où la résidence Alix.
D'où la résidence Alix, exactement. Je pense à Bourgelat, qui a créé à Lyon la première école vétérinaire. Je pense également donc, à Lucie Aubrac, qui était cette résistante que, que l'on connaît tous, qui a risqué plusieurs fois sa vie et qui a passé ensuite, après la guerre, le reste de sa vie à enseigner et à sensibiliser les jeunes générations à cette notion de résistance à l'inhumanité.
Quel conseil vous donnez justement avec l'épidémie là, qui complique un petit peu les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ces journées du patrimoine sans être trop embêté?
Alors on ne peut que conseiller à la fois d'anticiper ces visites, d'essayer de réserver, parce que beaucoup d'animations ou de propositions sont sur réservation, et puis le programme est riche de quasiment presque 500 propositions. C'est quand même très très vaste, vous imaginez. Il y en a pour tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, soit qui se passe près de chez vous, mais auquel on ne prête pas forcément attention, ou des propositions plus restreintes, plus petites, qui permettent de découvrir des balades urbaines, permettent de découvrir un espace finalement assez grand, dans des conditions de sécurité assez optimales, puisqu'en petits groupes en général, pour que tout le monde puisse entendre, comprendre et suivre.
Laurent Chopard, en charge de la coordination de l'événement au sein de la métropole, pas moins de 500 sites vont accueillir le grand public, malgré le contexte sanitaire actuel. Parmi eux, 40 nouveaux lieux, comme le musée des moulages dans le 3e arrondissement, la bibliothèque nationale également, à La Part-Dieu.